Alors, effectivement, le culte ce matin n'est pas en direct, mais en différé, ce qui fait que plusieurs nous suivront après coup. C'est marrant parce que là, pendant la louange, Nicolas nous disait « Levez-vous, vivez quelque chose ». Je me dis toujours, ceux qui sont en train d'écouter en différé, peut-être des fois vous êtes en train de conduire votre voiture, c'est difficile de vous lever pendant la louange. L'autre jour, j'écoutais un message, puis l'orateur me disait « Levez-vous, mais si vous conduisez votre voiture, levez-vous pas, s'il vous plaît, restez assis ». Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, c'est une joie de vous partager la parole de Dieu et de pouvoir aussi rejoindre la communauté des malentendants. Et c'est un plaisir, vraiment. Le message que Dieu a mis sur mon cœur, on va le trouver dans Romains 12. Mais avant cela, j'avais juste une petite histoire à vous raconter, comme vous les aimez bien. Vous savez pourquoi, ça c'est mes enfants qui m'ont raconté, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Parce que dans l'eau minérale. Elle est belle quand même. Hein? Donc l'eau minérale, ok? Le chat fait des bulles. Donc Romains 12, c'est en fait pour certains disent que c'est le début de la deuxième partie de la lettre de Paul aux Romains. Vous savez que c'est une très grande épître, il y a tellement de richesses, chaque verset on pourra faire une prédication dans l'épître aux Romains, tellement qu'il y a de richesses dans cette épître. Et ces derniers temps, Dieu me parlait vraiment de cette dimension de la transformation dans laquelle on est et de combien on a besoin de dépendre de lui et de dépendre de sa gloire. Et c'est intéressant, le temps de louange qu'on vient de vivre, où justement Dieu nous dit, aspirez à plus de gloire, rendez-lui gloire, élevez votre adoration vers lui. Et il y a ce va-et-vient, il y a ce ciel qui est ouvert lorsqu'on est dans la louange et dans la présence de Dieu. Et je crois qu'on est appelé à être transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alors, le verset 1 de Romains 12 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte donc, frères et sœurs aussi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique, un culte normal, c'est de s'offrir à Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? S'offrir comme un sacrifice vivant. Déjà, est-ce que vous êtes prêts à vous offrir sur l'autel et puis on va allumer et puis ce sera un beau sacrifice vivant? Est-ce qu'on se retrouve comme... Non, c'est s'offrir totalement à Dieu et on va voir tout cela. Déjà, ce texte nous dit qu'on est appelé à rompre avec le passé. Si je m'offre en entier à Dieu, je ne m'offre pas qu'à moitié. À l'époque, quand j'étais responsable de groupe de jeunes, le groupe de jeunes dont j'étais responsable s'appelait Sans Compromis. Et je disais, on ne peut pas marcher un pied dans le monde et un pied avec Christ, parce qu'à force de marcher, ça fera le grand écart et ça fera vraiment mal. Et c'est un peu ça la réalité. C'est qu'on ne peut pas s'offrir qu'à moitié à Dieu. Et je m'offre en entier à lui. Je romps donc avec le passé, avec mon histoire. Je crucifie ma chair et ses désirs, comme dira Paul aux Galates, par exemple. Mais aussi aux Romains et dans plein d'autres de ses lettres. Donc pour suivre Christ, il n'y a pas de place pour les compromis. Et c'est là tout le défi de notre marche. Régler ce qui nous retient dans notre marche. Quelqu'un me disait hier, « Ouais, mais j'ai encore tellement de travail sur ma vie, puis franchement, j'ai l'impression d'être pas vraiment transformé. » Qui ici peut dire qu'il est vraiment transformé à la gloire de Dieu? Ah, il n'y a pas beaucoup de mains à lever. Je ne sais pas derrière vos écrans. On est en chemin. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous transforme, mais plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a des choses dans nos vies qui doivent encore être transformées, qui doivent encore être achetées, qui doivent encore être restaurées. Jésus a dit que pour venir à lui, il faut naître de nouveau. Ok, première étape, on est de nouveau. Après, il y a tout le reste. Vivre sans me conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Waouh! Dans la version anglaise, la Philips, il est dit « Ne laissez pas le monde vous mettre dans son moule. » Et j'aime ça. Qui est-ce qui nous modèle? À partir de quel moule est-ce qu'on est né? Est-ce que je suis né à partir du moule divin ou du moule mondain? Est-ce que je suis né à partir de ce que Dieu a prévu pour ma vie ou est-ce que je suis né à partir de ce que les hommes attendent de moi? Est-ce que c'est la société, est-ce que c'est les standards de ce monde qui vont dire ce que je dois être ou est-ce que c'est Christ qui m'a racheté au prix de son sang à la croix qui va dire ce que je dois être? Qui est-ce qui dirige ma vie? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est Dieu? Je vous laisse y répondre. En fait, Fabienne nous parlait dimanche passé de la traversée de la tempête. Et ce qui est intéressant, c'est que pour entreprendre la traversée, il faut être ancré. Si on n'est pas ancré en Christ, on ne peut pas traverser. C'est un peu paradoxal, hein, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on doit toujours savoir où est notre accroche. Et dans la tempête qu'on traverse, même si Christ dort peut-être, il est là et on peut le réveiller, comme le disait Fabienne dimanche passé. Nous ne sommes plus du monde, mais dans le monde. Vous avez déjà entendu dire ça souvent, je pense. Effectivement, nous sommes en Christ. Il est le propriétaire de nos vies. Alors, ce n'est pas le système mondial actuel, ce n'est pas le prince de ce monde qui devrait nous gouverner. Et pourtant, si Christ nous a rachetés, on pourrait dire « Avant, j'étais dépendant du monde et maintenant, je suis dépendant de Christ. » Est-ce que c'est vraiment avant? Je vous pose la question. Ou est-ce qu'encore dans ce que je vis maintenant, je dois apprendre à dépendre plus de Christ? Soyez transformés. Cette transformation, c'est un processus. Ça prend du temps. Colossiens 3, versets 1 et 2 nous dit « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. » S'attacher aux choses d'en haut. S'y accrocher. Faire tout pour ne pas les lâcher. C'est comme quand on fait de la grimpe ou de l'escalade. Il y en a qui le font à main nue sans corde. Mais en règle générale, on est attaché. Et c'est mieux. C'est quand même notre ligne de vie, notre sécurité. Donc la suite du verset 2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vivre en Christ, c'est donc accepter d'être transformé pour refléter sa gloire, on vient de le chanter. Accepter et transformer, pas pour nous-mêmes, mais pour que le monde voit. Dieu le Père est le potier et nous sommes l'argile. Et donc s'il est le potier qui nous façonne, il nous transforme de jour en jour à son image. Ésaïe 64, 7 nous dit qu'il est le Seigneur, pourtant Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es le potier. Tes mains nous ont formés. Tes mains nous ont formés et tes mains vont continuer de nous transformer en réalité. C'est ça la puissance de la croix. Dieu va nous apprendre à vivre avec lui et va continuellement nous apprendre à aimer sans hypocrisie, à bénir sans rien attendre en retour, à être des témoins à cause de sa gloire qui est en nous. Je me souviens, il y a quelques années de cela, on faisait de l'évangélisation avec toute une équipe de jeunes dans un festival. Peut-être je vous ai déjà raconté cette histoire, mais on était tellement en feu, rempli de la présence de Dieu. On prenait des temps de louange au milieu de ce festival où il y avait 10 000 personnes qui dormaient dans le camping. Et on était un peu dedans. C'est une sorte de combat spirituel. Parce que plus vous adorez Dieu, plus ça dérange ceux qui sont des tentes à côté puis qui écoutaient d'autres styles de musique. Puis c'était un peu compliqué. Et à un moment donné, on est sortis, certains sont sortis, et on est sortis à quelques-uns pour aller témoigner dans ce camping. Et il y a des gars qui débarquent vers nous, puis qui arrivent, puis qui nous disent « Vous avez la lumière! Je le vois! Vous avez la lumière! » Oui, on brille de la gloire de Dieu. Et là, quelque part, c'était une défiance, en fait, en réalité. Mais on n'a pas à avoir honte et pas à mettre la lumière sous un boisseau ou à vouloir la cacher. On est la lumière du monde parce que Christ brille en nous. Et cette lumière, les gens ont besoin de la voir. Et dans ce même camping, plein dans le monde, avec plein de toxicomanes, de polytoxicomanes, de gens dans des états pas possibles, on a vu la gloire de Dieu. Je me souviens d'un punk, un gars qui a fait plein de séjours dans les foyers et autres. Je me suis mis à prier pour lui, il était visité par le Saint-Esprit là au milieu. Il s'est mis à pleurer, il s'est dit « Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. » Mais j'ai jamais senti un amour comme ça qui m'arrive dessus. C'est comme si je suis douché, transformé. Parce que la présence de Dieu était là. Et moi, j'ai envie de vivre ça de plus en plus. La gloire de Dieu n'est pas faite pour être limitée à l'Église. La gloire de Dieu est faite pour que le monde voit. Amen. Vous savez, c'est Bill Johnson, j'écoutais un message de lui, et il prenait cet exemple. Le sel, si on prend un pot de sel, puis qu'on enlève le couvercle et qu'on vide le pot sur la viande, personne ne voudra la manger. Mais le sel, on est fait pour le répartir sur tout le plat. Mais nous, l'Église, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le couvercle et on vide tout dans l'Église. Et pourtant, Christ nous dit, vous êtes le sel du monde. Pour la lumière du monde, le sel de la terre. Et on est appelé à être parcimonie, à saler le monde. Alléluia, mes amis. C'est ce qu'on est appelé à vivre, transmettre cette gloire. Alors, comment être transformé? Vous savez que le mot grec « transformé », c'est le mot « métamorpho » qui est le même pour la transfiguration de Jésus sur la montagne. Waouh! C'est-à-dire une transformation qui amène un changement même d'apparence, un changement visible que les autres peuvent voir. Peut-être que vous avez déjà vécu ça ou eu des témoignages. Je me souviens que je me suis converti, les amis dans le pub où j'étais tout le temps qui me disaient « David, t'es plus le même, qu'est-ce qui s'est passé en toi ?» Les gens ont besoin de voir cette transformation de plus en plus. Parce que le monde aspire après la révélation de la gloire de Dieu. Le monde aspire après Dieu à l'œuvre dans les vies, dans le monde, dans cette société. Pas des théories de nos églises, mais une église en action qui manifeste la gloire de Dieu. Amen. La transformation vient donc à partir du moment où on est prêtre en sacrifice vivant. Et un sacrifice vivant, ça veut dire qu'on s'offre en entier à Dieu et pas qu'à moitié. Et qu'on n'attend pas d'être mort pour s'offrir à Dieu. Parce que Christ l'a fait pour nous. Il est mort pour nous à la croix. Pour nous donner une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle, si on la veut vraiment, il faut qu'on l'accueille. Et qu'on soit prêt à lâcher ce qui nous sépare de cette vie nouvelle. Pleinement. En marchant dans une vie sainte, on peut servir Dieu et voir sa gloire. L'onction ne reçoit pas s'il n'y a pas d'abaissement. L'onction, vous savez, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas juste fun, on sent la présence de Dieu. Mais quand Dieu est là, on s'abaisse et on s'incline parce qu'on a besoin de sa présence. Il y a une révérence et on a besoin de comprendre cela. La sainteté est liée à l'obéissance. Et la puissance est liée à l'abandon de soi. Il n'y a pas de puissance sans abandon. Il n'y a pas d'abandon sans obéissance. Il n'y a pas d'obéissance sans sainteté. Tout est lié. C'est seulement comme ça qu'on pourra voir Dieu agir. Et comment est-ce qu'on est sanctifié? Pas par nos propres œuvres, mais c'est Christ lui-même qui le fait. En Thessaloniciens, 5, 23, nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Donc, Je disais tout à l'heure, Christ est le potier, nous sommes l'argile et il nous façonne. Même si tu es tout cabossé, Dieu peut te sanctifier et te transformer. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il y a seulement des vases d'or, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Waouh ! Tout à l'heure, on parlait du tabernacle, qu'on est le tabernacle vivant. Christ fait de nous des vases d'or, transformés, sanctifiés. Mais à nous de nous abstenir d'être salis, d'être rempli de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Un vase n'est pas fait pour être vide, un vase est fait pour être rempli. Et on va le remplir de choses qui reflètent la gloire de Dieu. On va le laisser être rempli de la présence de Dieu. Et si on a des vases d'or, on est appelé à être rempli de la présence de Dieu. Et moi, le premier, je le sais, j'ai du travail dans ma vie encore pour être purifié, transformé, pour refléter la gloire de Dieu. Mais sincèrement, je m'engage devant vous, je le dis, j'ai envie de travailler là-dessus. Je ne veux pas laisser la chair triompher, je ne veux pas laisser tout ce que mon histoire, tout ce que le monde, tout ce qu'il y a autour de moi pourrait me faire chuter. Je ne veux pas laisser ça triompher, parce que c'est Christ qui a triomphé de ma vie. Et je veux laisser Christ triompher de ma vie. Je vois la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Donc, pourquoi être transformé ? La suite du verset nous dit « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, pourquoi ? Pour discerner la volonté de Dieu. Et si on n'est pas transformé, on aura de la peine à discerner qu'est-ce que Dieu veut pour nous. On ne pourra pas parce qu'on n'est pas connecté à lui. Et on a besoin de cela. Et à cause de ce que Dieu a fait pour nous, parce que Christ est mort pour nous à la croix, et son amour s'est déversé, et cette sanctification vient de lui pour nous, et on a besoin de comprendre cela. Mais aussi être transformé pour le renouvellement de notre pensée, de notre estime de soi. Et je viens après au verset suivant, le verset 3, qui nous dit ceci. Je vais reprendre le verset 2 juste avant le verset 2. Donc, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de trop haute opinion de lui-même, mais de garder les sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Dans la parole de vie, il est dit « Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. » Et dans la parole vivante, il est dit « N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'exhorte de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités, ou qui déborde votre vocation, acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. » Bon, là, ils ont bien allongé le verset. Mais c'est vraiment, vraiment riche, en fait, de voir le sens du truc. En fait, littéralement, ce texte nous dit « Ne passez pas orgueilleusement à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Ne laissez pas votre orgueil triompher de vous-même. » En fait, c'est un avertissement à la dispersion, à l'épuisement, à trop en faire, et donc à notre éloignement du plan initial de Dieu. C'est un avertissement au burn-out qu'on trouve dans la parole, ici dans ce verset 3. Ne pas en faire trop. Et ça, moi, chez moi, je sais que c'est un challenge. Je sais pas chez vous. Peut-être qu'il y en a certains, c'est « Non, ben, moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, je suis bien devant ma télévision. Du reste, c'est bien parce qu'il y a les cultes sur Internet maintenant. » mais non plus ne pas avoir une opinion exagérée de nous-mêmes. Waouh! Je me souviens d'un ami un jour qui m'a dit on m'a prophétisé que j'étais le nouveau Reinhard Bonnke. Alléluia! Bon, maintenant il n'est plus à l'église et puis je ne sais pas trop où il en est avec le Seigneur, mais, mais voilà. Je veux dire, on nous sort des fois des trucs et puis on se prend pour des choses. Voilà. C'est pas parce qu'on t'a donné une parole prophétique que, peut-être que c'est de Dieu, hein, mais que tu vas être l'homme qui va amener le réveil et puis changer le monde, quoi. Pourtant, Dieu a besoin de nous. Est-ce que Dieu dit sur nos vies? C'est parce que Dieu veut manifester sa gloire au travers de nous. Mais on a besoin d'être transformé. Il ne faut pas juste dire, ah, c'est bon, Dieu l'a dit, Dieu va le faire, quoi. Il y a un processus. Et ce texte nous parle de la mesure de notre foi. En fait, c'est toujours interpellant quand on parle de la mesure de notre foi. Quelle est la mesure de ta foi? Certains ont peut-être plus de foi que d'autres. Mais il y a aussi des moments dans nos vies où on a plus de foi qu'à d'autres moments. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Par exemple, ma femme, elle a décidé d'apprendre l'espagnol. Elle est partie en Argentine, elle a dit « je prends 3 mois et en 3 mois je vais revenir, je serai trilingue ». Ben, faut une sacrée foi. Mais c'était le cas. Elle est revenue en plus avec un accent argentin. Ou par exemple, je connais une personne ici dans l'église dont je ne tairai le nom, qui était sage-femme libérale, puis qui a décidé par la foi d'arrêter pour servir Dieu. Ben, c'est un sacré pas de foi. Ou alors quelqu'un d'autre, et j'en connais plusieurs, qui, on leur a dit d'avorter, parce que leur enfant allait être malade, il allait avoir plein de problèmes, puis tout le monde leur poussait à ne pas aller jusqu'au bout, mais par la foi, ils ont la conviction qu'il fallait garder le bébé, qu'il fallait aller jusqu'au bout, et ce bébé est en pleine santé. Ou parfois, je connais aussi une situation où le bébé n'est pas en pleine santé, mais l'enfant vit, l'enfant est heureux, et Dieu manifeste sa vie. Mais il y a une dimension de foi, il y a des moments dans notre vie où notre foi est manifesté avec puissance. Et on a besoin, en fait, d'apprendre à marcher par la foi. Et la foi, en fait, vient de ce qu'on entend. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin d'entendre Dieu, qu'on a besoin d'écouter Dieu pour qu'il ait la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et on a besoin de cette intimité-là avec lui. Amen. Donc, on n'est pas là pour être des consommateurs du dimanche, mais on est là pour être des acteurs du royaume de Dieu. Des acteurs qui manifesteront la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pour ça, je parlais de ça le 23 août, lors de mon dernier message, mais on a envie et on se réjouit de ce qui va se mettre en place ici au sein de la CT, de l'espace Goshen, tout ce qu'on va vivre ici avec les groupes théophiles, avec les communautés missionnelles, avec les groupes de vie qu'on vient de présenter. Mais il y a plein de choses, peut-être des actions sociales, peut-être des projets que vous avez sur votre cœur, peut-être que vous avez des choses que Dieu a mis en vous. Ne les taisez pas. Mais si c'est pour manifester la gloire de Dieu, mettez-le en action. Par contre, si c'est pour qu'on parle de vous, en tant que bon chrétien, peut-être qu'il faut le mettre de côté. Mais on est appelé à manifester la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ça notre job. Et on a besoin d'être actifs, de construire ensemble la muraille avec nos différentes couleurs, nos différentes dons, avec tout ce que nous sommes. Et c'est tout la suite de ce chapitre, des versets 4 à 8, où il est dit que nous sommes plusieurs membres dans un seul corps. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et c'est toute la suite de ce verset-là. En fait, on a plein de dons différents, on est tous différents, mais on va manifester la gloire de Dieu avec nos dons, avec nos différences. Et Christ attend de voir encore son épouse qui manifeste vraiment sa gloire. Et c'est ce qu'on va vraiment vivre. En fait, assemblée chrétienne, ça ne veut pas dire assemblée pour demeurer entre nous et fermer. C'est une assemblée pour accueillir et pour envoyer. Amen. Peut-être que vous allez me dire, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça du tout. Bon, ben moi, c'est comme je vois les choses depuis l'année que je suis là. Je crois qu'on est appelé à être une source de bénédiction et pas être un espace fermé. Amen. En réalité, dans les temps qu'on vit, dans la société, avec le Covid, mais avec tout ce qu'on vit, on aurait cette tentation de profiter simplement, d'être posé, puis d'attendre que les choses passent. Mais ce n'est justement pas ce que Dieu attend de nous. Ce n'est justement pas le moment de faire ça. Et ce n'est pas le moment non plus de quitter le bateau. Sauf si c'est pour des missions d'exploration, vous savez, quand on envoie ses chaloupes depuis le navire pour aller explorer des lieux nouveaux, puis qu'on revient sur le bateau parce qu'on est lié à tout le leadership du bateau. Mais ce n'est pas le moment non plus de faire ce qu'on veut. Et en même temps, il y a une réalité, c'est que dans ce corps qu'on est, Dieu ne cherche pas des super-héros. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé ces derniers temps, où j'ai l'impression que dans le milieu chrétien, mais bon, ce n'est pas ici à Toulouse, hein, c'est juste ailleurs. Ailleurs, mais pas ici. Surtout pas en France, non, c'est vraiment dans d'autres pays très loin. Mais il y a des endroits où on cherche des super pasteurs, des super héros qui vont faire le job, et puis quand ils ne le font pas, ben on n'est pas content contre eux. Mais pas ici, hein, vraiment ailleurs. Où il y a des endroits où on attend des super héros qui vont faire des miracles, puis nous on attend juste que les choses se passent. Et puis on court après le super héros. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu cherche un peuple de héros. Et c'est quoi des héros? C'est des gens qui font simplement ce qu'ils sont appelés à faire et à être des témoins. J'étais interpellé dans ce qui s'est passé ces derniers temps, et on peut penser à eux dans la prière, avec tout ce qui s'est passé dans l'arrière-pays niçois, avec ces catastrophes, avec la tempête Alex, mais aussi dans d'autres régions de France, mais en particulier dans ces vallées. C'était intéressant. Il y a plusieurs choses qui étaient intéressantes. La première chose, c'est quand notre président est venu sur place, il y avait en même temps, pour certains, ce sentiment où ils se sont sentis abandonnés, certains pendant 48 heures sans nouvelles et autres, et un réel sentiment d'abandon. Et en même temps, il y avait ce maire qui disait « Quand la machine France se met en marche, c'est beau. » Et cette reconnaissance de l'aide qui est apportée. Et parfois, on peut être là, on peut être à râler parce qu'il n'y a rien qui se passe, puis quand tout d'un coup, il y a tout qui se met en place, alors c'est génial. Puis après, on va de nouveau râler parce que ce n'est pas comme on veut. Puis après, on va de nouveau se réjouir. Puis ça c'est très français. Quoi. Mais ce qui m'a aussi énormément touché, c'est cette dimension de tous ces héros qui se sont mis en action. Peu importe leurs âges, peu importe même certains qui sont venus depuis d'autres régions pour venir aider à nettoyer, à reconstruire, à être en action. Ils n'ont pas attendu justement que les super-héros viennent, ils se sont mis en action. Il y a des héros qui n'ont pas cherché à en être. Ce n'est pas leur job. Ils n'ont pas cherché à être vus. Mais ils ont secouru des vies, ils sont allés aider, nettoyer, déblayer, ravitailler. Et il y en a d'autres qui mangeaient et buvaient une bonne bière devant leur télévision en disant « Oh, les pauvres !» Il y a des héros qui n'ont pas regardé leurs propres intérêts, mais qui sont allés défendre ceux des autres. Et il y a des spectateurs derrière leur télévision qui prennent le moins de risques, qui parfois se croient pour un super-héros, qui rêvent de super-héros, mais qui réfléchissent beaucoup, 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 beaucoup si ça vaut la peine avant d'aller sur le terrain. Les secours, ils ont travaillé en équipe et ils ont obéi à l'ordre de leur chef. Mais un spectateur, lui, s'il fait quelque chose pour se prendre un super-héros, il va aller tout seul, il va obéir à personne parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Le héros, c'est un acteur qui se lève et qui fait une différence par ses actes, alors que le spectateur, il attend que les autres fassent pour utiliser les actes ou les fruits des actes du héros. L'acteur, il participe au film quand il y a un film. Mais le spectateur aussi, en fait, mais un petit peu différemment quand même. Alors la question, c'est est-ce qu'on veut permettre la réussite du film ou on veut le critiquer? Est-ce qu'on veut être acteur? Est-ce qu'on veut être un héros ou est-ce qu'on veut être spectateur de ce que Dieu fait? Est-ce qu'on veut se laisser transformer par Dieu? Une chose qui m'interpelle dans ce texte de Romains 12, un peu plus loin, c'est au verset 9. Où il est dit ceci, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Pour les chrétiens, c'est possible ça? Ouais, de toute façon, nous, on n'est pas hypocrites. On est tous des bons chrétiens, on s'aime vraiment. Il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, quand je me suis converti, j'ai rencontré Dieu et ma vie a vraiment été changée à fond. On a vécu des trucs de fou dans notre groupe de jeunes avec des guérisons, on a vu Dieu agir. C'était impressionnant. Et peu de temps après, c'était un groupe de jeunes d'une église très traditionnelle, très très traditionnelle. Ça commençait à poser problème ce qu'on vivait. Et puis, on s'est fait reprendre par les autorités de l'église parce que ça n'allait pas où ce qu'on vivait. Et puis, ça allait tellement loin qu'il y a même eu de. Ça allait juste dans tout le village, ça se savait, puis qu'il fallait faire gaffe à la secte. Moi, j'étais tout jeune converti, responsable déjà du groupe de jeunes, et puis voilà, on me traitait de gourou d'une secte, quoi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est bon, ces chrétiens, c'est tous des hypocrites, pardon. Puis je suis retourné dans le monde. Vraiment, j'ai tout lâché. Enfin, j'ai dit, voilà, moi, je sais que Dieu m'aime, c'est bon, mais j'ai pas besoin des chrétiens, j'ai pas besoin de l'église, c'est tous des hypocrites. Bon, Jésus est venu me rechercher, il m'a fait grâce, parce que ce que j'avais dit était faux. On n'est pas tous des hypocrites, merci Seigneur. Et puis Dieu m'a repris aussi là-dessus, j'ai transformé mon cœur. Et puis j'ai pu pardonner et on a pu aller de l'avant. Mais bien souvent, on doit apprendre aussi à accueillir la différence, à accueillir ce qui va peut-être nous déranger, parce que Dieu est à l'œuvre. Et puis, cet amour. Dans Romains, le chapitre suivant, Romains 13, verset 8, Paul dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Waouh, c'est déjà pas mal, hein? Puis après, Paul, il rappelle que toute la loi se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Waouh, c'est assez fort comme quand il dit ça. Alors, pour prêcher à fond là-dessus, je ne vais pas le faire. Et juste après au verset 11, il est dit, cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car c'est maintenant que le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Et ce verset-là, de Romains 13, versets 11 et 12, il est pour aujourd'hui. C'est maintenant. Réveillons-nous de notre sommeil. Sortons de notre torpeur. Arrêtons de rester des assoupis, juste qui aiment Dieu, mais qui restent assoupis. C'est le temps de briller. C'est le temps de refléter la gloire de Dieu. Et c'est ça le réveil. C'est ça qui va amener le réveil. Le réveil, c'est quand l'Église brille tellement que les ténèbres fuient, que les âmes se tournent vers Dieu, non pas à cause de ce qu'on dit, mais à cause de la gloire de Dieu. C'est là que la guérison triomphe de la maladie, que la délivrance triomphe des ténèbres, parce que nous sommes remplis de la gloire de Dieu, parce que nous aspirons à voir Dieu agir, parce que nous avons soif de ce Dieu vivant. Et c'est ce que nous voulons vivre. Moi, j'aspire à ça, mes amis. J'aspire que dans les veilles, ici à la maison de prière, on soit tellement touché par la présence de Dieu qu'on ne peut pas sortir d'ici en n'étant plus les mêmes. Qu'au culte, on soit transformé par la présence de Dieu. Que dans les groupes de vie, Dieu agisse. Que dans les communautés missionnelles, que dans les groupes théophiles, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Qu'on ne soit pas dans du cérébral, mais dans du vécu. C'est ce qu'on a appelé à vivre. Vraiment. Alors, mes amis, soyons fervents d'esprit. Soyons les témoins de la gloire de Dieu. On a besoin de voir Dieu agir. On a besoin d'arrêter de se limiter, mais d'oser être des témoins. Peu importe ce qu'on va dire de nous, peu importe ce que les gens vont penser, mais oser sortir des sentiers battus et manifester la gloire de Dieu. On a besoin de ça. Je ne sais pas si c'est possible, Adrien, ou pas, je voulais mettre une vidéo. On va juste... Je vais juste montrer cette petite vidéo et avant d'arriver justement à ma conclusion. Si ça fonctionne, on va voir. On a pas mal de soucis de la technique aujourd'hui, mais peut-être que ça va fonctionner. Puis si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Mais c'est en fait une vidéo d'un témoignage qui était une fille qui témoigne de sa foi, peut-être que vous l'avez vu, dans une émission télévisée sur la chaîne C8. Voilà, mais je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Alors, il faut attendre 20 minutes, et puis dans 20 minutes, ce sera bon. Non, ce n'est pas vrai. Ah ouais, on a oublié de régler pour le son. Merci, Domi. Bon, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Ça va? Oui, non? Non, ça ne veut pas aller. Bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave, vous pourrez la retrouver sur Facebook. En fait, c'est une fille qui était dans une émission télévisée où il y avait un débat sur la position du gouvernement face au Covid, etc. etc. Et puis, quand elle a le micro, bah, en fait, elle les prend un peu en otage. C'est un petit peu limite, peut-être, pour certains. Mais elle dit, en fait, là, aujourd'hui, on nous parle de peur, on nous parle de plein de trucs, comment est-ce qu'on devrait réagir face à ce Covid. Et moi, je suis venu apporter un autre témoignage. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et Jésus, il est mort pour vos péchés, il est là pour pardonner vos péchés. Elle le dit comme ça, devant les gens. Alors, tout le monde est un peu surpris parce que ça les prend un peu en otage. Mais elle dit, voilà, Jésus, il est là, il est plus fort que toute la peur, que tout ce que vous pouvez vivre, parce que c'est lui dont vous avez besoin. Alors après, il y a le journaliste qui dit, ouais, mais bon, concrètement, il n'y a pas autre chose à dire. Et c'est vrai que c'était un petit peu embarrassant, peut-être. Parfois, peut-être, moi, au premier abord, je me suis dit, ah, mais j'aurais peut-être fait différemment. Mais elle a osé témoigner de sa foi, puis dire que c'est Jésus dont on a besoin. On a besoin de cela, de chrétiens qui manifestent leur foi. Dans le verset 10, il est dit, par amour fraternel, ayez l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. Par honneur, usez de persévérance, ça veut dire persévérer, n'arrêtez pas, ne lâchez pas, même si c'est difficile, même si on vous dit que vous n'y arriverez pas. Ensemble, encouragez-vous et persévérez. Soyez une source d'encouragement pour l'autre, même s'il retombe, même s'il doute. Encouragez-vous. Et la suite, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Ce verset 11 nous dit, soyez fervent d'esprit. Littéralement, soyez bouillant, soyez en feu. On ne veut pas être des chrétiens qui disent, Jésus vous aime. Non, ma joie, elle est intérieure. Ça ne se voit pas, mais elle est intérieure. Vous savez, Jésus m'a tellement transformé. J'étais tellement, tellement mal avant et maintenant. Je suis tellement, tellement mieux. Alléluia. Jésus vous aime. On a besoin de plus que ça. Et la vidéo fonctionne ? Et la vidéo fonctionne. Alléluia, on va la voir. Alors, on va mettre la vidéo. Ah, avec le son ou il n'y a pas le son? S'il n'y a pas le son, c'est que ça ne fonctionne pas. Heureusement, on a une super équipe.
Si vous voulez bien vous lever. Et nous avons dans le public Karen, qui est un peu sur cette ligne. Si vous voulez bien vous lever, Karen. Vous pensez aussi que les mesures prises par le gouvernement sont excessives. Normalement, votre micro est ouvert.
Bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau. Alors moi, je vais être très très claire. Alors moi, mon objectif ici, c'est d'apporter un beau témoignage, plein d'amour, plein d'espoir, parce que tout ce qu'on nous prêche en ce moment, c'est le chaos, chaotique, et ça fait très peur. Et moi, si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui a touché mon cœur. Et cette personne-là, Jésus. C'est Jésus-Christ.
Ouais, j'en étais sûre.
Alors, je sais qu'il y a des chrétiens ici, des musulmans, des personnes qui ont la foi. Moi, j'ai la foi, j'ai l'espérance, et je sais que le Christ revient. C'est vraiment un message d'amour. Déjà, je vous bénis tous, je vous aime tous. Sachez que Dieu vous aime, Jésus vous aime, et il a donné sa vie à la croix pour vous tous, pour vous sauver de vos péchés. Parce qu'un jour, ce monde-là...
Ouais, je crois que ça s'arrête là, cette vidéo. Waouh, faut oser, hein. Je l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais elle l'a fait. Et ça interpelle. Et ça interpelle. Vous savez, jeudi, là, il y a un chanteur que peut-être vous connaissez bien, Kenji Girac, qui vient de sortir son nouveau CD. Et sur la dernière piste de son CD, c'est le cantique « Oh, prends mon âme ». Oh, prends mon âme. Et lui, il passe partout à la télé et tout, et il ne cache pas sa foi. Et là, sur son CD, il met un cantique. Et il est vraiment beau comme il est chanté, mais purée, il te prend les tripes. On a besoin d'oser briller, peu importe ce que les gens pensent de nous. Peu importe si on sort des standards. On a besoin de cela. Est-ce qu'on est prêt à cela? Peu importe ce que les gens pensent de nous. Cette semaine, on a eu la joie de voir une otage franco-suisse qui a été libérée au Mali. C'était une belle surprise. Et en même temps, elle a annoncé aux Suisses que l'autre otage qu'on avait, qui était retenu au Mali, est décédé. C'était une missionnaire baloise qui avait déjà été arrêtée une première fois et kidnappée par les djihadistes. Et la Suisse lui a dit, mais ne retournez pas au Mali. Elle est retournée. Elle a dit, moi, ma foi est plus forte et je veux témoigner de Jésus et s'occuper des enfants et je veux manifester l'amour de Jésus auprès des enfants. Elle a été relevée une deuxième fois. Et apparemment, il y a quelques jours, ils l'ont tuée. Alors c'est assez surprenant, on ne sait pas encore trop pourquoi. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, certains se sont dit, mais ouais, mais elle est complètement allumée, retourner là-bas alors que c'est dangereux. Peut-être. Ou alors peut-être qu'elle a dit, non, mais moi, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de l'amour de Jésus et je vais aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on est prêt à cela? Alors en conclusion, j'arrive gentiment à la fin. Est-ce qu'on veut être transformé pour refléter sa gloire? Est-ce qu'on veut vivre cette métamorphose, cette transformation complète pour un renouvellement complet afin de discerner la volonté de Dieu, afin de manifester la gloire de Dieu? Veux-tu être transformé par le bon potier? Veux-tu être rempli de son esprit? Veux-tu être une source d'encouragement et de bénédiction, un membre du corps qui bénit plus large? Alors si aujourd'hui, peut-être que tu es là dans la salle ou alors derrière ton écran et tu te dis, mais Jésus, il est loin de moi. J'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin qu'il vienne dans ma vie, j'ai besoin d'être le recevoir. Je t'invite simplement à dire, Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. J'ai besoin de cette transformation. Je veux vivre une vie nouvelle. Je ne veux pas être dans le compromis. J'ai besoin de recevoir ta vie. Si aujourd'hui tu te sens seul, sache que Jésus est mort à la croix pour toi. Parce qu'il t'aime tellement qu'il veut te donner sa vie. Et tu peux recevoir sa vie. Et puis si aujourd'hui tu te dis, mais oui, je suis chrétien depuis longtemps et je viens même à l'église. Mais je suis sec. J'ai besoin d'une vie nouvelle. Il y a des chaînes qui m'ont retenu et empêché de rentrer dans ce que Dieu a voulu pour moi. Alors je dis dans le nom de Jésus que ces chaînes soient révélées et brisées dans ta vie pour que tu puisses recevoir l'attouchement de Dieu et la gloire de Dieu. Et je t'invite simplement, peut-être là où tu es, ici dans la salle ou chez toi, puisse juste ouvrir les mains devant Dieu et dire, Seigneur, j'accueille ta présence. Je t'accueille, Saint-Esprit. Je veux être ce vase d'or purifié et rempli de ta présence. Je veux recevoir cette transformation. Je veux être un canal de ta gloire. Alors viens, Saint-Esprit, remplis-nous de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je ne veux pas être un temple du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. Mais le temple rempli de ta présence. Et puis si aujourd'hui, là au niveau de l'Église, moi je sens aussi que Dieu nous appelle à être une source de bénédiction les uns pour les autres, à s'encourager les uns les autres. Et si aujourd'hui tu sens que tu as quelqu'un dans l'Église ou avec qui tu t'es peut-être éloigné pour différentes situations ou autres, c'est pas obligé d'aller vers lui, mais tu peux dans ton cœur lui pardonner à cette personne et chercher à bénir l'Église, à aimer l'épouse de Christ, pour qu'ensemble on puisse voir et manifester la gloire de Dieu. Alors qu'on va finir ce temps de culte, à la sortie, je vous invite à faire un pas de foi ou un pas d'encouragement. Vous allez vers une ou deux personnes qui est ici, et vous allez juste lui dire qu'est-ce que tu aimes chez elle et en quoi elle est une source de bénédiction pour toi, en quoi tu as du plaisir à l'avoir comme frère ou comme sœur avec toi. Et si vous êtes derrière votre écran, faites-le vers quelqu'un. Vous pouvez téléphoner, envoyer un texto ou peu importe. Mais dites à quelqu'un, Je t'aime, j'aime ce que tu es à cause de cela, de cela. Tu es une source de bénédiction, d'encouragement de ma vie à cause de tel ou tel domaine. Et c'est comme ça qu'on va être transformé de gloire en gloire, parce qu'on marche dans la bénédiction. Amen. Le réveil est proche, mes amis. Sortons de notre sommeil. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.